Radio Marmontin, les élèves de la radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Marmontin avec les élèves de l'école Marmontin de Bruay-la-Buissière. Une émission un peu particulière puisque ces élèves sont encore en vacances, plus exactement en vacances apprenantes à Berck-sur-Mer, au cottage des Dunes. Quelques mots tout d'abord sur ce lieu remarquable de Berck-sur-Mer qui sert aujourd'hui de centre d'accueil, d'hébergement et de vacances, mais aussi d'accueil de permanence et de services municipaux. Situé dans le quartier de Lommel, à quelques encablures de la plage, il fut construit en 1883 sur l'initiative justement d'un certain Émile de Lommel. Au départ, c'était un casino qui n'a pas très bien fonctionné. Il fermera en 1913 avant de devenir un hôtel, le Grand Hôtel, puis le Cottage des Dunes, nom qu'il a donc conservé jusqu'à aujourd'hui. Durant la Première Guerre mondiale, il fut réquisitionné par l'armée pour être transformé en hôpital militaire. Après la guerre, il devint une pension pour enfants handicapés. Il pouvait accueillir ainsi 200 patients dans les années 30, et c'est dans la seconde moitié du XXe siècle qu'il se transforma à nouveau pour devenir un centre européen d'accueil et d'hébergement. Ce sont quelques dizaines d'élèves de l'école Marmottan qui ont profité de ce lieu du lundi 24 août au vendredi 28 août, sous l'œil bienveillant de leur enseignant Laurent Lemaire, qui revient sur cette colonie apprenante.
École buissonnière, plus précisément, c'est le titre de ce séjour. Alors, en quoi ça consiste? En fait, pour revenir un peu en arrière, le ministère a décidé de permettre aux jeunes élèves et aux plus âgés, mais moi je suis concerné par les plus jeunes puisque c'est l'école primaire, de leur permettre de renforcer leurs acquis scolaires sous une forme plus ludique. Donc, si on reprend un petit peu l'origine de ce fonctionnement, depuis plusieurs années, il existe ce qu'on appelle les stages de remise à niveau dans les écoles primaires qui ont lieu très souvent en vacances d'avril et la dernière semaine du mois d'août, ce qui a pour but de remettre le pied à l'étrier aux élèves qui ont besoin d'un coup de pouce pour entrer pleinement dans le cycle du secondaire. Avec le confinement et les 55 jours minimum sans classe qu'ont dû subir les élèves, il a semblé judicieux au ministère de permettre aux élèves de renforcer, d'améliorer ou d'asseoir leurs acquis scolaires, mais également de retravailler, de retisser le lien social et de les replonger dans une structure qui peut être ludique, mais qui est quand même cadrée, pour leur remettre un petit peu le cadre scolaire en tête avant la rentrée, pour leur permettre évidemment de ne pas être trop en difficulté par rapport à la nouvelle rentrée.
Et c'est plutôt un beau succès puisque ce sont 18 élèves sur 21, je crois, de la classe qui sont présents à cette école buissonnière.
C'est ça, 18 élèves de mon CM2 de l'année 2019-2020 qui vont entrer donc en 6e sur 21 qui sont présents. Il y a également 4 élèves qui vont être au CM2 dans ma classe l'année prochaine qui sont au CM1. Et puis des élèves de CE2 et de CM1 qui sont suivis par le PRE, le projet de réussite éducative. Donc en tout, nous sommes 26. C'est une belle école buissonnière. Je pense que tu le suis là depuis aujourd'hui. Les enfants sont quand même relativement intéressés et motivés. Le vivre ensemble fonctionne bien. On les entend là aussi chanter. Voilà, on essaye d'alterner des moments, on va dire, scolaires, avec des moments, on va dire, beaucoup plus ludiques, même s'ils sont éducatifs, mais des moments plus ludiques et de vivre ensemble qui sont très intéressants.
De ce fait, les élèves alternent moments sérieux, comme des devoirs pour se remettre à niveau.
Alors, dis-moi, comment tu t'appelles ?
Erika.
Erika, alors qu'est-ce que tu es en train de faire, là ?
Je suis en train de faire un dessin en calcul. Par exemple, on est à 21 et comment on fait pour arriver de 25 ? Et du coup, on fait 21, 22, 23, 24, 25, ça fait 4. Donc du coup, c'est marqué en bleu, je me suis trompée. Et on doit colorier en bleu.
Autre moment sérieux, la rédaction d'articles pour un blog.
Vous avez fait quoi ? Vous avez préparé votre sac ?
On a préparé notre sac après la chambre.
Parce qu'il fallait un courrier, parce que peut-être il allait pleuvoir.
Oui.
Et du coup, au bateau, il a fait quoi ?
Au bateau. Bah, elle a plu.
Heureusement que tu avais ton cas, oui.
Là, il y a fait plou.
Voilà, tu n'as pas fait ton sac. T'es dead.
Pas notre cas, ouais, quoi.
Voilà. Donc, faut l'écrire tout ça. C'est important. C'est okay. Plein de petits détails qui vont faire en sorte que l'histoire va être complète.
On a été dans nos chambres d'abord. On a été dans la classe, on a fait des exercices. Après, on est parti à la mer à pied. Le temps, 25 minutes. On a marché sur le sable. On a joué. On a fait des photos. On s'est jeté dans le sable et on a fini le tour. On est reparti au cottage des dunes. On a pris nos douches.
Et bien sûr, les élèves de l'école Marmottan ont vécu des moments plus ludiques, comme cette sortie en bateau.
Toujours sur la rive gauche, nous apercevons derrière la cime des arbres le phare de Touquet. Il a une hauteur de 54 mètres et par temps clair, une portée de 25 000 nautiques, soit à peu près 50 km.
Il est là-bas.
Ah ouais, le phare.
Il est grand, hein.
Le phare, ouais.
54 mètres de haut.
Ah ouais.
Nous venons à présent de passer les derniers méandres et les dernières difficultés du chenal. Et nous avons maintenant les bras accès vers la haute mer. Et comme vous voyez, aujourd'hui il est mauvais, donc on n'ira pas plus loin.
Regardez comment les vagues, elles sont grosses. Je pense que là, si on va là, ça va commencer à bouger un peu plus.
Ça va secouer un peu, là.
Il va tourner.
Ah, hey, 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 ouais. Ouais.
Encore un autre moment d'amusement des élèves, une veillée spéciale jeu de société.
Déjà, vous allez tous, un par un, choisir un des symboles que vous allez mettre. Alors, chacun représente un symbole, peu importe lequel, et vous le mettez dans la case. Et vous, non, vous n'avez pas le droit d'avoir le même. Et vous le mettez dans cette case qui est juste là. Ok ? Donc, mettez-vous d'accord. Alors, ça n'a aucune incidence sur la suite du jeu.
Moi, je prends le bâton là.
Moi, je prends la croix.
Et pour terminer, voici tour à tour les réactions de Jérôme Truffier, animateur, et de Laurent Lemaire.
L'association plein de petits ateliers dans ce genre de dans l'école buissonnière est forcément satisfaisant et bénéfique parce qu'il y a eu un long moment de latence où ils ne sont pas allés à l'école. Donc même un atelier d'une heure par jour sur de l'écriture, ça peut être que bénéfique pour eux.
Alors moi, très clairement, je pense que non seulement elle était nécessaire, mais... On peut se poser la question s'il faudrait pas pérenniser ce modèle, puisque ça permet quand même à des élèves, même s'il n'y a plus de confinement, parfois après 2 mois de non-scolarisation, de replonger dans un milieu scolaire et en même temps de garder un petit air de vacances. Mais c'est, en tout cas, cette école ouverte, puisque maintenant c'est une école ouverte, est-ce qu'elle elle restera buissonnière ou est-ce qu'elle se fera dans les écoles avec des activités scolaires le matin et des activités, on va dire, plus sportives ou ludiques l'après-midi. Je pense que c'est un élément intéressant pour remettre le pied à l'étrier, pour refaire venir des enfants avec une envie de venir à l'école qui est intéressante. Je pense que c'est un dispositif qui, là, en tout cas, pour ma part, parce que je ne peux pas m'exprimer pour toutes les écoles buissonnières qui ont pu se réaliser ou pu s'écrire, mais en tout cas, pour ma part, à moi, pour l'école Marmottan, le résultat, en tout cas, semble très positif. Alors, il nous reste encore, évidemment, 3 jours. Mais après ces 2 jours, par rapport au lundi matin, où les enfants ont monté dans le bus, et leur comportement, leurs réflexes qu'ils ont déjà repris au niveau de s'asseoir, au niveau de leur pupitre scolaire, de l'utilisation de leur matériel, on voit quand même qu'il y a une progression et que d'ici la fin de semaine, ça sera véritablement une réussite.
À présent, vous allez découvrir le travail des élèves de l'école Marmottan pour la radio, puisque dans le cadre d'un atelier radio qui s'est tenu du mardi 24 au mercredi 25 août à Berck, les élèves ont pu interviewer 2 associations du secteur qui interviennent dans les domaines de la nature et de l'environnement. Bonne écoute sur Radio Plus.
Bonjour, vous êtes en direct de Radio Plus. Et nous allons interviewer Frédéric Levier, qui est bénévole dans l'association Découverte Nature.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc je m'appelle Frédéric, je suis bénévole pour l'association Découverte Nature depuis 6 ans maintenant. Et donc j'interviens principalement sur la partie phoque, dont on va parler après je pense.
Depuis combien de temps existe l'association Découverte Nature ?
Alors, l'association, elle existe depuis, je crois, les années 1990. Donc, c'est une ancienne association qui avait été créée à l'origine par des enseignants. C'était beaucoup des instituteurs et des professeurs. Donc à l'époque, on s'occupait pas des phoques, puisqu'il n'y avait pas encore de phoques ici en baie d'Authie. Donc il y avait d'autres activités, enfin, moi j'étais pas là, donc je ne peux pas vous en dire plus.
Comment avez-vous trouvé cette association?
Je l'ai trouvée en rencontrant un de ses membres, parce que moi, comme je m'intéresse beaucoup à la nature, quand j'ai commencé à arriver à m'installer à Berck, il y a 7 ans, donc je m'intéressais déjà beaucoup à la nature, donc surtout aux oiseaux à l'époque. Et puis après j'ai vu aussi qu'il y avait les phoques. Donc c'est en allant observer les phoques que j'ai rencontré un des membres de l'association qui était en train de les observer. Et puis c'est comme ça que j'ai lié connaissance et que je suis rentré dans l'association.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette association?
Donc ça fait 6 ans maintenant que je suis bénévole, hein, donc je suis pas rémunéré, mais il n'y a pas de salarié dans l'association, hein, c'est une petite association locale. Et donc ça fait 6 ans maintenant que je donne beaucoup de mon temps à l'association.
Que faites-vous en dehors de l'association?
Alors moi comme j'aime bien la nature, je vais souvent me promener dans la nature, hein. Donc pour le moment je travaille plus. Donc depuis que je suis venu m'installer à Berck, je travaille plus, donc j'ai du temps disponible et j'aime bien aller me promener dans la nature, aller observer les oiseaux, les papillons, les libellules. J'aime bien aussi voyager. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Quel est votre animal marin préféré?
Alors ça, c'est une bonne question. Comme animal marin, on va dire les phoques, hein, parce que c'est surtout ça dont je m'occupe. Hein. Donc c'est en plus ici, enfin je sais pas si vous êtes déjà allé les voir, mais c'est très facile de les observer. Donc c'est très intéressant de pouvoir les observer, de suivre leur comportement et de pouvoir les étudier de près et de les étudier toute l'année.
À quel endroit recueillez-vous des phoques?
Alors quand les phoques viennent s'échouer sur la plage, on va les donc ils viennent sur les plages. Alors moi j'interviens particulièrement entre la baie d'Authie, donc Berck, jusqu'à Murlimont, c'était la plage, donc dans la région. Après sur les autres endroits sur la côte, il y a d'autres intervenants, il y a d'autres personnes, hein, qui font partie de ce qu'on appelle le réseau national échouage. Donc il y a des personnes un peu partout sur tout le littoral français. Et donc, quand on recueille des phoques qui sont échoués, c'est souvent sur la plage. Et puis après, si tu veux savoir où est-ce qu'on les transporte. Donc si quand on va observer un phoque qui est échoué sur la plage, déjà il faut savoir si c'est nécessaire de le prendre en charge. Parce que parfois, ça peut être simplement un phoque qui est venu se reposer et qui n'est pas en détresse. Donc après, moi j'ai suivi une formation pour savoir si il est nécessaire de le soigner, ce phoque. Donc si le phoque n'est pas en détresse, eh ben on va le laisser tranquille. On va peut-être essayer de le faire repartir à la mer, parce que s'il y a beaucoup de monde autour de lui, il va être stressé. Mais si après on se rend compte qu'il est en détresse, hein, si on voit qu'il est blessé, si on voit qu'il est maigre, ou que c'est vraiment un bébé qui a perdu sa mère, à ce moment-là, il faut le prendre en charge et le conduire dans un centre de soins.
Combien de phoques échoués trouvez-vous par mois?
Par mois, alors ça dépend des mois. On trouve le plus de phoques échoués en été, parce que c'est la saison où les bébés vont naître. Et ce qu'on trouve souvent, ce sont des jeunes, des bébés qui ont perdu leur mère, hein, qui ont été séparés de leur mère avant d'être sevrés, donc avant d'être autonomes. Ou alors, ça peut être aussi des bébés qui sont sevrés, qui ont déjà été séparés de leur mère, mais qui sont pas suffisamment forts, qui n'ont pas bien été allaités. Donc, qui sont trop faibles et qui peuvent être malades, qui peuvent être victimes de maladies ou de parasites. Alors après, savoir, cette année, par exemple, des phoques vivants, on en a récupéré 2, là, ce mois-ci, un juin et un juillet. Après, ce qui arrive aussi, c'est qu'on retrouve des phoques qui sont morts, hein. Ça arrive. Donc des phoques qui sont morts, on ne sait pas toujours de quoi ils sont morts, hein. Ça peut être de maladies, ça peut être parce qu'ils ont été pris par exemple dans des filets de pêche. Donc s'ils restent trop longtemps dans les filets de pêche et qu'ils restent trop longtemps dans l'eau, ils vont se noyer parce qu'ils ont besoin de venir respirer à la surface. Donc ça peut arriver aussi. Ou alors des phoques qui ont été blessés. Et parfois, on ne sait pas de quoi ils sont morts, mais on intervient quand même dès qu'à chaque fois qu'on retrouve un phoque mort, hein, pour essayer déjà de l'identifier, on prend des mesures, etc. Et parfois, on peut aussi l'autopsier. Donc si le phoque est frais, hein, on va pouvoir l'autopsier pour essayer de voir de quoi il est mort, et puis éventuellement faire des prélèvements de certains organes.
Radio Plus.
Que faites-vous quand vous trouvez un phoque échoué?
Alors, quand on trouve un phoque échoué, donc s'il est mort, on va juste simplement faire quelques mesures, prendre des photos, et après on renvoie tout ça à un organisme qui s'appelle Pélagis. Donc ça s'appelle l'Observatoire Pélagis, hein, c'est un organisme qui se situe à La Rochelle. Donc c'est eux qui centralisent tous les échouages de mammifères marins sur toutes les côtes françaises. Et puis si le phoque est vivant, bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, on va déjà essayer de voir si le phoque est réellement en détresse. Et s'il est en détresse, à ce moment-là, on va le prendre en charge pour aller le conduire au centre de soins.
Est-ce que vous avez déjà soigné d'autres animaux?
Moi, je ne soigne pas les animaux. Hein. Je fais juste que les transférer au centre de soins. Je les prends en charge, je vais que les transporter. Après, pour soigner les animaux, il faut être soigneur. Donc, il faut être formé, il faut avoir un diplôme. Hein. N'importe qui peut pas soigner des animaux, surtout des animaux protégés comme les phoques. Après, moi, j'ai déjà pris donc en charge plusieurs fois des phoques. J'ai pris en charge parfois des oiseaux aussi.
Faut-il un diplôme pour s'occuper des phoques?
Oui. Donc, pour soigner les phoques, il faut un diplôme, hein, parce que c'est assez compliqué. Hein, comme ce sont des animaux sauvages, il faut savoir vraiment comment les soigner. C'est parfois assez compliqué. Et donc, il faut avoir suivi des formations. Pour ça, moi, j'ai suivi une petite formation de quelques jours pour savoir comment agir en cas de découverte d'un mammifère marin échoué, mais c'est tout. Après, moi, j'interviens jamais au niveau du soin.
Pourquoi ne faut-il pas s'approcher des phoques?
Alors ça, c'est une très bonne question. Donc les phoques, ils vivent une partie de leur vie dans l'eau et ils vivent une partie de leur vie sur le sable. Quand c'est marée basse en général. Et donc quand ils sont sur le sable, ils sont assez vulnérables parce qu'ils savent pas bien se déplacer déjà. Donc si on les approche trop près et si on leur fait peur, ils vont repartir à l'eau. Et donc lorsqu'ils sont sur les bancs de sable, ils viennent pour beaucoup de raisons en fait. Ils viennent se reposer, ils viennent se réchauffer. Ils viennent, les femelles, les mères viennent allaiter les petits. Après, ils font aussi leur mue. Leur mue, ça veut dire qu'ils vont changer de poil. Hein. Tous les ans, les phoques changent une fois par an, elles changent de poil. Et donc, si on leur fait peur, et ben, tout ce qu'ils sont venus chercher sur les bancs de sable, et ben, ça va pas forcément bien se passer. Donc, soit la mère va perdre son petit. Sinon, ben, si la mue se passe pas bien, ben, ils vont pas avoir un beau poil pour le prochain hiver, donc ils seront moins bien protégés. Si on les embête toujours, ben, ils vont pas avoir le temps de bien se reposer, donc ils vont être plus sensibles aux maladies ou à d'autres problèmes. Donc, il faut toujours éviter de déranger les phoques. Et donc, ici à Berck, on a vraiment la chance de pouvoir les observer de très très près, hein, et sans les déranger, tant qu'on reste du bon côté du fleuve. Mais il faut surtout pas les approcher de l'autre côté.
Comment faites-vous pour ramener les phoques à l'association?
Donc, on a une caisse, hein, tout simplement. On va les transporter avec une caisse. Donc, en général, ce sont des bébés qu'on récupère, donc ils sont pas lourds, ils sont pas très difficiles à transporter. Après, ça arrive quand on ait besoin de véhicules. Donc, nous, à l'association, on n'a pas de véhicule particulier. Et en plus, on n'a pas le droit de... N'importe qui ne peut pas aller en véhicule sur la plage. Hein. C'est normalement interdit aux véhicules à moteur. Donc pour l'un des phoques là, qu'on a récupéré cet été, on a été aidé par un véhicule de la communauté d'agglomération là, qui était sur le... Il y a un chantier là en Bédotti actuellement. Donc le bébé, il était justement échoué là sur la zone du chantier. Donc là, c'est ce véhicule-là qui nous a aidé pour extraire le phoque de la plage.
À combien vous êtes pour porter un phoque?
Bon, en général, à deux personnes, ça suffit. Hein. Un de chaque côté, on a des poignées sur la caisse. Si le phoque n'est pas trop lourd, c'est pas très difficile à transporter. Et en général, quand les phoques sont trop gros, en fait, c'est arrivé là, l'hiver dernier qu'il y a eu un gros phoque qui faisait au moins peut-être 200 kilos, qui était échoué aussi du côté de la zone des travaux. Et lui, ben, on a vu que c'était un vieux phoque, en fait, qui était en fin de vie. Et donc, dans ce cas-là, ces phoques-là, on les prend pas en charge, on les laisse tranquilles. C'est aussi bien de les laisser tranquilles, ils vont finir leur vie sur la plage et ils seront plus heureux que si on commence à essayer de les déplacer et de les stresser pour pas grand-chose.
Est-ce que vous avez déjà soigné des requins ?
Ah, des requins, non. Après, les poissons, c'est plus compliqué. Hein. Parce que s'ils sont malades, ils vont rester en mer. Et après, s'ils arrivent à s'échouer sur la plage, eh ben, ils seront déjà morts. Donc, en général, on les soigne pas. Hein.
Est-ce que vous avez déjà soigné des grands phoques ? Bah, pas soigné, mais transporté.
Des grands phoques, non, j'ai jamais vraiment transporté des grands phoques. Hein. C'est ce que je disais, les plus gros, déjà, ils sont beaucoup plus difficile à transporter puisqu'ils sont lourds. Hein. Quand les phoques font plus de 150 ou 200 kilos, là, il faut plus qu'une caisse pour les transporter. Il faut un véhicule. Et puis en général, quand c'est des phoques adultes qui sont plus gros, on essaye d'éviter de les prendre en charge, sauf si vraiment, à moins qu'on puisse les soigner directement sur la plage. Par exemple, si c'est un phoque qui a été pris dans un filet, on peut essayer de découper le filet. Mais après, le transport au centre de soins, c'est quand même très rare. Et les centres de soins, ils les prennent pas forcément en charge non plus, les plus gros phoques.
Comment faites-vous s'il y a un phoque échoué dans l'eau ?
Bah, s'il est échoué dans l'eau, enfin, tant qu'il reste dans l'eau, on peut pas intervenir. Hein. Déjà, on n'a pas de bateau pour le faire. Et puis, le mieux, c'est d'attendre qu'il vienne sur la plage, se poser sur la plage pour qu'on puisse aller le récupérer plus facilement.
Comment faites-vous si vous avez deux intervenances en même temps ?
Oh bah ça, c'est jamais arrivé. Bon, après, on est plusieurs à l'association et puis il y a d'autres personnes qui peuvent venir d'autres associations. Il y a plusieurs intervenants qui peuvent venir sur la côte ici, dans le secteur.
Comment faites-vous pour soigner... comment faites-vous en hiver pour des phoques ?
Bah, l'hiver et l'été, c'est la même chose. Hein. On les transporte dans des caisses qu'on met dans nos voitures et puis après, on les envoie au centre de soins.
Jouez-vous avec des phoques souvent ?
Tu m'as dit jouez-vous ? Ah oui. Non, on peut. Enfin, les phoques, ce sont des animaux sauvages, donc on ne joue pas avec. Hein. Parfois, ce qui arrive, c'est que quand on va se baigner, il y a des phoques qui viennent se rapprocher de nous. Donc ils viennent se rapprocher, là, quand ils sont dans l'eau, ils ont moins peur que quand ils sont sur le sable. Donc là, ils sont plus curieux. Dans ce cas-là, c'est eux qui vont se rapprocher des gens qui vont se baigner. Dans ce cas-là, on les laisse venir et puis après, une fois qu'ils nous ont vus, ils vont repartir. Mais on peut pas jouer avec, hein, parce que ça reste des animaux sauvages, donc on peut jamais savoir leur comportement. C'est pas des animaux agressifs, mais on sait jamais. Hein. Après, si vous faites mordre par un phoque, ça peut être mauvais.
Que faites-vous comme activité en hiver ?
Ben, en hiver, on va aussi observer les phoques. Hein. Déjà, la partie phoque, on l'a fait toute l'année. Et sinon, avec l'association, ben, on fait quelques activités plus à l'intérieur. Hein. On peut faire des conférences ou des projections de films au cinéma avec des débats.
En gros, quand il y a un phoque échoué sur la plage, mais qui est à côté des rochers, comment vous faites ?
Ben, ici, on a de la chance de ne pas avoir beaucoup de rochers. Hein. Donc, c'est plus facile. Mais si, donc là, je peux pas trop te répondre. Ici, bah, le petit phoque qu'on a récupéré là cet été, il était un petit peu dans une zone de cailloux où c'était pas vraiment des rochers, mais là, c'était pas très compliqué à récupérer.
Quand il fait très chaud, est-ce que les phoques ils viennent ou ils restent dans l'eau ?
Ah bon, quand il fait très chaud, ils aiment bien sortir de l'eau. Hein. C'est le moment. En été, c'est le moment où ils sortent le plus souvent de l'eau. Ils restent le plus longtemps hors de l'eau. Ça leur permet de bien se réchauffer, de bien faire leur mue, de bien faire la vitamine D aussi avec le soleil.
Est-ce que vous observez plus fréquemment les phoques depuis quelques années ?
Globalement, les populations de phoques ici dans la région augmentent. Hein. Tous les ans, on a plus de phoques. Donc forcément, ben, avec ça, il y a plus d'échouages. Donc, parce que on a encore des petites populations ici en France. Hein, on est vraiment dans le sud de l'aire de répartition de ces espèces, mais ce sont encore des espèces qui sont en train de se reconstituer, hein, puisqu'elles avaient été complètement décimées au début du XXe siècle et elles se sont réinstallées qu'au milieu des années 80. Donc, pour le moment, les populations se portent bien, elles continuent de grandir.
À quel endroit vous intervenez ?
Donc moi j'interviens en général à Berck, parfois un petit peu vers Merlimont, c'était la plage, ou parfois jusqu'à Fort-Mahon de l'autre côté de la baie d'Oti.
Vous prenez combien de temps à prendre le phoque et à le ramener dans la voiture ?
Ça dépend où est-ce qu'il est échoué. Hein. Parfois il est échoué juste sur la plage, juste à côté d'un parking, donc ça va très vite. Celui qu'on a récupéré dans la zone de travaux là-bas en Bédotti, là, on a mis beaucoup plus de temps puisqu'il fallait d'abord le récupérer avec un premier véhicule et puis après le retransférer dans mon véhicule et puis après le renvoyer. Le temps de l'emmener au centre de soins qui est là, c'était en Normandie, donc là on a mis plus de 2 heures pour y aller. Donc là, on a pris toute l'après-midi pour transférer le phoque au centre de soins.
Est-ce que vous ramenez aussi, est-ce qu'il y a aussi des mamans et des papas?
Bah, la plupart du temps, on intervient sur les bébés, sur les jeunes. Hein. Ce que je disais, les adultes, en général, on essaye au minimum de les prendre en charge parce que c'est beaucoup plus compliqué.
Quelle voiture faut spécialement pour transférer un phoque?
Bon, il faut pas une voiture particulière, il faut juste qu'il y ait la place pour mettre la caisse. Quoi.
Comment on fait pour avoir plus d'informations sur l'association?
Donc on a une page Facebook sur laquelle il y a nos coordonnées. Donc on a, vous pouvez nous envoyer des messages via la page Facebook ou il y a une adresse mail aussi si vous voulez nous contacter.
Merci d'avoir répondu à la question.
Ben merci à vous pour toutes ces bonnes questions.
Radio Marmottin, les élèves de la radio.
Comme un phoque de bois, grand papy et mamie phoque dansent le rock d'autrefois, au temps de la belle époque, de leurs amours chauds et froids. C'est le rock des phoques qui s'entretient, qui s'entrechoque là-bas, là-bas sur la banquise où la vie paraît exquise. Se roulent en criant de joie, ils ont des allures loufoques et s'amusent comme des rois. Les cousins germains des phoques, Otari et Lion de mer, sautent si fort qu'ils provoquent la chute d'un gros iceberg. C'est le rock des phoques qui s'entrequit, qui s'entrechoque là-bas, là-bas sur la banquise. Paraît exquis, c'est le rock des phoques qui s'entrequit, qui s'entrechoque là-bas, là-bas sur la banquise où la vie paraît exquis. C'est le rock des phoques qui s'entrequit, qui s'entrechoque là-bas, là-bas sur la banquise où la vie paraît exquis.
Radio Marmottin, les élèves de la radio.
Vous êtes toujours sur Radio Plus et à présent nous allons recevoir Mathilde et Daphné de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Alors bonjour, moi c'est Mathilde, je suis animatrice nature au GEDAM. Depuis fin juin et jusque début octobre, et je remplace une animatrice nature qui est présente le reste de l'année. Et là, je m'occupe actuellement de faire les animations nature pour le programme estival et les classes vertes au mois de septembre à la rentrée.
Je suis Daphné, je suis adhérente depuis très très longtemps, depuis pratiquement la création de l'association GEDAM. Donc, groupement de défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais. Et donc, depuis quelques années, j'anime aussi les sorties nature et j'aide Mathilde lors des classes nature et aussi au programme estival.
Depuis quand existe votre association ?
Alors, l'association a été créée en 1972 pour contrer la création d'un barrage sur la Canche, qui est un fleuve qu'on trouve dans le coin. C'est un barrage qui devait alimenter le bassin lillois. Et donc, l'association a été créée suite à ça.
Il y avait aussi un immense projet immobilier et l'association, elle est créée justement pour préserver les paysages, pour que vous puissiez en profiter pleinement et que vos enfants aussi en profitent. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est la vigie de la région.
Quels sont vos objectifs, les objectifs?
Ben justement, la protection des paysages. Donc, on intervient lorsque les projets vont défigurer donc le bord de la mer, par exemple. Vous savez très bien que de plus en plus des personnes veulent habiter au bord de la mer, ont plein de projets immobiliers, mais on peut pas faire n'importe quoi, surtout avec la montée des eaux. Donc, on est là, vigilant.
L'objectif, c'est pas de... On dit de saturer de connaissances, mais en gros, c'est bien de partager notre passion de la nature. Voilà, donc vous présentez aussi toutes les espèces qu'on trouve sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres, voilà.
Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?
Alors, si moi j'ai choisi le métier d'animateur nature, c'est que j'y trouve beaucoup d'avantages, notamment le fait pouvoir être dehors. C'est sûr, de prendre l'air et de ne pas rester enfermé, c'est quand même un avantage. Alors c'est sûr, on doit combattre parfois la pluie, parfois la neige, le vent, comme aujourd'hui. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'être en contact avec les gens et de pouvoir transmettre ses connaissances. Et ensuite, ce que les gens transmettent aussi des choses, on apprend des choses aussi avec le public. Et chaque jour, je vois des choses différentes. Je vais faire une sortie en bord de mer. Je peux découvrir. La dernière fois, j'ai vu un bébé homard sous les rochers. Et la semaine d'après, on va pouvoir découvrir peut-être des étoiles de mer ou même des hippocampes que je n'aurais pas vu la semaine précédente. Voilà. Donc c'est transmettre des choses et aussi découvrir des nouvelles choses à chaque fois. On s'en lasse pas.
Oui, Mathilde vous a parlé justement de ces trouvailles et justement la nature, on s'émerveille justement sur ces richesses et c'est vraiment inépuisable. Donc c'est à vous de regarder dans un rocher, dans une flaque d'eau, les petits insectes, les crustacés, découvrir une fleur, rechercher une chenille sur une plante rare, parce que cette plante, si elle n'existe pas, la chenille pourra pas se développer, parce que là aussi il y a des plantes qui sont indispensables à la survie, à la vie des insectes. Et voilà, s'émerveiller sur un papillon, pourquoi ce papillon existe, les araignées existent, il y a toute une chaîne comme ça. Il n'y a pas d'animaux nuisibles. Tout est important dans la nature, et même il faut prendre conscience de l'invisible, de ce que vous avez sous les pieds.
Comment fonctionne votre association ?
Donc, l'association, il y a 3 salariés. Il y en a un directeur, une animatrice nature et un chargé de mission. Et comme toute association, il y a une présidente, un bureau avec une trésorière, tous les membres que constitue une association. Et aussi, qui est très important pour l'association, c'est tout le réseau d'adhérents et de bénévoles. Voilà. C'est aussi grâce à eux que l'association peut se permettre d'exister et de perdurer.
Pourquoi avez-vous décidé de créer cette association ?
L'association, c'est dans le but de défendre la nature, de respecter les sites et donc de sensibiliser le public qu'il aille de 3 ans à 99 ans au respect, tant qu'on peut marcher et qu'on peut comprendre les choses, dans le but de respecter les espaces de notre territoire.
Ce qui est important, la nature, c'est un livre ouvert. En fait, on ne connaît pas, c'est important donc d'établir ce lien, de sensibiliser tous les publics à la découverte de la nature, parce qu'on fait partie de la nature, on est la nature, et si on ne connaît pas, on ne peut pas protéger bien la nature. Donc c'est important de sensibiliser tous les publics pour bien protéger la nature, parce qu'on est la nature, on a besoin de la nature et c'est vital. C'est notre poumon, c'est notre respiration. Et poser un regard différent sur la nature, sur les petites choses, s'émerveiller, pouvoir s'émerveiller sur une fleur, sur un insecte. Vous savez que les insectes vont disparaître, ils disparaissent avec les insecticides. Vous avez les oiseaux qui vont partir, on a fait des sorties oiseaux. S'émerveiller sur ces oiseaux qui sont des sportifs de haut niveau, qui là en ce moment se préparent. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis, mais qui se préparent pour des longs voyages. C'est ça, les gens ne connaissent pas. S'émerveiller sur des plantes qui poussent dans notre région, qui sont superbes. C'est poser un autre regard et nous on fait ce lien et ça c'est important pour que vous puissiez aussi transmettre. La plus belle école, c'est être dans la nature, c'est connaître la nature, c'est vivre dans la nature.
Quelle action menez-vous avec votre association ?
Alors, moi je vais parler du volet sensibilisation. Donc avec l'association, il y a plusieurs choses. Il y a un côté sensibilisation et animation de sorties, comme j'expliquais, nature, lors des classes vertes pendant la période scolaire, mais aussi lors du programme été. Et il y a un volet aussi études avec les suivis des animaux ou comptage de plantes, voilà, qui est aussi très important. Et on a un dernier volet qui est le volet juridique, voilà. Il est important aussi de préciser que le GEDAM met en place des actions juridiques pour protéger les sites naturels. Donc juridique, ça veut dire qu'on peut attaquer des promoteurs pour qu'ils ne construisent pas un bâtiment sur un espace naturel où il y a beaucoup d'espèces protégées, par exemple.
Dans quel secteur intervenez-vous ?
Alors, le GEDAM, qu'on appelle Groupement de Défense de l'arrondissement de Montreuil, intervient sur tout le Pas-de-Calais. Et lors du programme d'été, justement, il y a plusieurs secteurs. On appelle le secteur baie de Canche, la baie d'Auty, le Boulonnais, le Montreuilois, mais on va même jusqu'à Saint-Paul-sur-Ternoise, Béthune. C'est quand même un territoire assez vaste, voilà.
Et vendredi, je vais jusqu'à la limite de la Somme puisque j'organise une randonnée à la journée à la source de l'Auty, à 100 km d'ici, à Coigneux. Hein, l'Auty prend sa source là-bas et c'est vraiment très 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 une belle vallée à découvrir, de beaux villages typiques. Ça, c'est intéressant de connaître aussi l'intérieur de la région.
Menez-vous des actions comme nettoyer la nature ?
Alors non, le GEDAM n'organise pas ce type d'action, mais on en parle. Et il y a d'autres associations qui se sont d'ailleurs créées sur le Montreuilois et qui consistent justement à ramasser les déchets sur le littoral. Voilà. Et donc, mais c'est nous, on sait qu'on ne le fait pas actuellement, nettoyons la nature. Mais on sensibilise à la pollution d'ailleurs sur le littoral.
Mais personnellement, nous ramassons nos déchets. Lorsque j'organise des sorties en baie d'Auty, par exemple, bien ou ailleurs, j'ai un sac poubelle. Et quand je peux ramasser des déchets, je les ramasse aussi. Hein, ça, c'est important. Et je pense que tout le monde doit être concerné, avoir son petit sac et ramasser des déchets.
Radio Marmottan, les élèves de la radio.
Que pensez-vous des feux de forêt ?
Ça, c'est un grave problème climatique, c'est dû au réchauffement climatique, hein, et puis aussi à la malveillance des hommes. Donc, il y a les feux aussi, bon, d'origine criminelle. Et puis, il y a aussi les feux qui vont s'allumer spontanément parce que, justement, l'homme a planté des essences et arrivé à un certain niveau de température, les essences des arbres vont s'enflammer spontanément comme ça. Et ça, de plus en plus, c'est un problème qu'on va affronter très très souvent dans les années à venir, malheureusement. Et ça, ça sera un fait divers et ça va accentuer bien sûr le réchauffement climatique et il faut savoir aussi tous les problèmes que ça va entraîner. Bien sûr, c'est pas seulement les forêts, hein, c'est aussi les animaux. Les insectes qui vont disparaître, hein, c'est la faune, la flore. Hein. Donc, c'est important d'anticiper et d'être vraiment vigilant lorsque vous vous promenez en forêt, de ne pas allumer des feux, de ne pas être tenté de faire un pique-nique, un barbecue. Là aussi, soyez très très vigilants parce qu'il y aura malheureusement d'autres feux de forêt.
Que pensez-vous du Covid-19 ?
Le Covid-19, oui, bien si l'homme est malade, la nature est malade. Je crois qu'il faut relier les deux. Hein, c'est parce que, justement, on fragmente les territoires des animaux et depuis que l'homme s'est sédentarisé, c'est-à-dire qu'il est resté sur place à cultiver, à élever des animaux sur place, il a été confronté avec des épidémies, des pandémies. Ça a toujours existé depuis la préhistoire. Et donc, de tout temps, il y a eu des épidémies de peste, il y a eu la tuberculose. Donc, il y aura encore d'autres virus. Le problème, c'est que ces virus vont se développer à cause du réchauffement climatique. Hein, parce que on a des endroits dans le nord de l'Europe, par exemple, il y a des réservoirs à virus et avec le réchauffement climatique, ces virus vont se développer. Donc, il y aura d'autres pandémies, mais c'est à nous de vivre sainement, de renforcer ses immunités et de ne pas avoir peur du virus. On est habitué donc à ces pandémies depuis très très longtemps et l'homme a une part de responsabilité.
Est-ce que le coronavirus a eu un impact sur votre activité ?
Alors oui, c'est-à-dire que on va dire que là, sur la saison printanière, comme vous le savez, on était confinés, donc toutes les classes vertes qui devaient venir au printemps n'ont pas pu venir. Donc tout a été annulé et depuis là sur le programme été, eh bien forcément ça met un petit climat parfois anxiogène puisque on met des masques, voilà, on doit s'éloigner, on doit garder une distance de sécurité et l'animation c'est souvent très convivial, très amical et je trouve que des fois ça met un petit peu le fait de mettre un petit peu de distance avec les gens, c'est moins bien, mais on est obligé de le faire parce que vous savez qu'on doit toujours faire attention. Donc voilà, mais oui, voilà ce qui s'est passé pour la saison. Et après, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer là pour le reste de l'année, pour le mois de septembre. Voilà.
Est-ce que vous trouvez beaucoup de masques depuis le confinement dans la nature ?
Oui, on voit beaucoup de masques dans les laisses de mer. J'en ai encore vu deux ce matin. Donc je suis allée sur la plage me promener pour montrer au public la beauté des dunes. Et malheureusement, il y avait deux masques jetables par terre dans le sable. Donc je les ai ramassés. Mais normalement, on ne devrait pas en retrouver. C'est des jetables et ça met quand même plusieurs milliers d'années. Non, enfin, je pense de moins des centaines d'années à se décomposer. Donc c'est pas très beau et voilà, c'est un peu triste. Ouais, on en voit régulièrement, hein, partout, même sur les trottoirs. Dans la nature, il y en a, mais encore plus.
Comment peut-on agir au quotidien ?
Agir au quotidien, c'est lors de vos achats, hein, éviter des emballages plastiques, lors de vos jouets, lors de vos tenues, comme t'es une petite fille, t'as envie de certaines tenues, voilà, donc limiter aussi la consommation en tenue vestimentaire, c'est aussi au quotidien. Par exemple, si tu vas jouer dans la nature, éviter d'escalader les dunes et de piétiner les zoyas, par exemple. Il y a plein de choses comme ça au quotidien. Ne pas jeter tes déchets dans la nature aussi quand t'as un chewing-gum, par exemple. Hein, c'est ça, constamment les enfants ont un chewing-gum dans la bouche et on voit des trottoirs vraiment jonchés de chewing-gum. Et là, c'est la même chose. C'est le premier geste à ne pas faire. Hein. Et puis c'est au quotidien, c'est éviter tous les emballages plastiques, hein, prendre du savon. Donc, c'est en fait une autre façon, hein, d'agir, de consommer, voilà.
Est-ce que tous les fruits, et par exemple légumes et tout, est-ce qu'on peut les jeter dans la nature ?
Ça dépend des fruits et légumes. Il y en a certains qui ont du mal à se décomposer. poser, notamment les agrumes, les fruits qui sont extérieurs à notre région, qui ne sont pas locaux, ont du mal à se décomposer. On favorise de préférence les produits bio, locaux, et on sait que ça, il n'y a pas de problème pour jeter un trognon de pomme dans la nature, on sait qu'il va être mangé par les fourmis. Voilà, mais c'est vrai qu'après il y a certains fruits, je pense qu'il faut éviter de les jeter. On sait bien que dans les composts déjà, c'est même pas conseillé de les jeter, même par rapport aux graines, ils ont beaucoup de mal à se décomposer. Je pense que tu veux rajouter quelque chose, Daphné.
Non, bah c'est justement parce que c'est tous ces fruits et légumes, ben sont enrobés de pesticides, donc c'est pour ça. Hein. Et en fait, il faut observer la nature. La nature, elle recycle tout. Il y a que l'homme qui fait des déchets, qui sait pas recycler. Donc il faut penser, quand on achète justement au quotidien, hein, je reviens à la question précédente, comment je fais pour éliminer ce produit? Est-ce que ça va pas polluer? Voilà, il faut être attentif. Mais il faut toujours, si vous habitez la campagne, avoir un tas de compost au fond du jardin, mettre les tontes de gazon et puis les épluchures de légumes, c'est ce que je fais. Et puis je fais mon jardin avec tout ce compost qui enrichit ma terre.
Radio Marmottan, les élèves de la radio.
Pourquoi détruisons-nous la nature ?
Et oui, ça c'est un constat navrant, hein, parce qu'on considère la nature comme ressource à exploiter constamment. Hein. C'est l'eau, c'est le sable par exemple, ça va devenir quelque chose de très rare, le sable aussi. C'est tous les minéraux, c'est tous les pierres, les roches, le bois hein, qui est exploité. Et donc plus on sera d'humains et plus on aura besoin d'exploiter. Hein. Vous avez tous, et c'est pour ça qu'en fait que la nature est détruite et il faut en prendre conscience. Et donc, moi, j'ai pas de solution. C'est à nos gouvernants aussi, c'est à nos hommes politiques d'intervenir et de changer progressivement leur politique.
Les élèves de l'école Marmottan participaient le lendemain à une sortie nature organisée par le GEDAM 62. Mathilde, animatrice nature du GEDAM, et Daphné, bénévole du GEDAM, expliquent le déroulement de cette sortie.
Donc, on va découvrir les dunes de Berck. Donc, c'est un parcours d'à peu près 1,5 km, mais bon, ça se fait très facilement, pour découvrir la formation dunaire, puisqu'on va voir le lien entre la mer, le sable, et ces montagnes de sable qui révèlent en fait une formation végétale, on va dire presque exclusivement adapté à à ces conditions climatiques difficiles. Et puis, en même temps, on peut voir des animaux, quelquefois des animaux qui s'y cachent. Donc, on fait découvrir ce parcours. Et en même temps, donc ça, c'est plutôt à l'intérieur des dunes. Et puis après, donc sous forme d'une petite balade. Et après, en début d'après-midi, on va découvrir plutôt donc une espèce qu'on trouve en baie de Canche, mais aussi en baie d'Oti, qui est donc le phoque vaumarin et le phoque gris, voilà, qui se trouve là. Alors ici en baie d'Oti, c'est un peu plus touristique. Il y a beaucoup plus de monde qui viennent les voir. On les voit plus facilement et donc à l'aide de jumelles et de longues vues, on vient expliquer un petit peu le mode de vie des phoques, voilà.
Je voudrais rajouter quelque chose d'important aussi, de montrer aussi la fragilité du massif dunaire, hein, parce que c'est pas un terrain de jeu, justement, je vous ai dit, ça fait partie des actions à ne pas faire, à ne pas piétiner les Oya, par exemple, parce qu'en fait, ces dunes, elles sont là pour préserver, par exemple, la ville de Berck et les environs de la montée des eaux. Hein, parce que ça aussi, il va y avoir un grave problème. Vous savez que les glaces fondent et le cordon dunaire s'amenuise de plus en plus, c'est-à-dire qu'il disparaît petit à petit et c'est ce qui est arrivé en baie d'Oti, par exemple, au bec du perroquet. Donc, c'est important d'être sensible à la fragilité des éléments et en particulier de ce cordon dunaire, que ce soit ici dans la région ou à Stella ou ailleurs, là où il y a des dunes, et la fragilité aussi des falaises, puisqu'il y a des falaises aussi qui s'écroulent. Donc, en prendre conscience que l'érosion est là en permanence et modifie vraiment constamment le trait de côte et ça va de plus en plus vite. Tout est rapide.
Où peut-on se renseigner pour avoir plus d'informations sur l'association ?
Alors, donc, on a des brochures qui sont dans les offices du tourisme, tout ce qui concerne le programme été. Le reste de l'année, on peut prendre connaissance des sorties nature ou des choses qui sont mises en place par le biais d'une lettre d'information qui est publiée régulièrement par le GEDAM. Et on a aussi un site internet et un site, si vous connaissez vous bien les jeunes, Facebook. Voilà, et donc qui s'appelle Facebook, le GDEAM-62. Et donc là-dessus, on publie les sorties nature et un petit peu des choses qu'on découvre sur dans les journaux, notamment un phoque qui a été blessé, on alerte, on partage pour que les gens soient informés. Voilà, sur les sorties, je pense que c'est essentiel de savoir ça. Et puis après, je vous dis, bien sûr, vous pouvez toujours passer un petit coup de fil sur un numéro, est-ce que vous voulez le numéro de téléphone, je vous le laisse, qui est le 03 21 06 50 73, et vous pouvez prendre des renseignements, ou on a un mail qui est le gdeam.asso tout en minuscule, @wanadoo.fr, et voilà, on peut vous donner des renseignements sur ce qu'on réalise au niveau des sorties.
Et prenez soin de la nature, elle prendra soin de vous, et continuez à vous émerveiller. Découvrez, c'est infini. C'est un livre ouvert, grand ouvert. Profitez-en.
Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce numéro d'été de Radio Marmottan. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à Laurent Lemaire, aux encadrants et aux élèves de l'école Marmottan de Bruay-la-Buissière de nous avoir fait confiance, ainsi qu'à la Ligue de l'Enseignement et au ministère de l'Éducation nationale. Merci également aux associations Découverte Nature et GEPAM 62 d'avoir participé à cette émission. On remercie enfin le personnel du cottage des Dunes et de la ville de Berck-sur-Mer pour leur accueil. À bientôt.